Bonjour, nous sommes le jeudi 9 février 2023, il sonne 11h et je sais que vous êtes très nombreux à être déjà en place pour nous écouter, qui à la maison, qui au service comme à l'Office togolais des recettes, pourquoi pas au CASEF un peu partout, à Lomé, à Dapaon, à Bassar, à Baga, Niamtougou, à Sokodé, à Takpamé, à Nero, hein, toutes ces villes qui disposent de radios qui relaient le club de la presse, mais également en différents endroits de la planète Terre, si vous nous recevez sur les ondes des radios numériques, Ebene Radio, Radio Gameli, ou encore vous nous voyez sur la chaîne YouTube, ou encore l'application Canal FM. C'est ainsi que vous voyez Magloire Teko Kenvi de Flambeau des Démocrates. Bonjour Magloire.
Bonjour à toi Sas Gaou et bonjour à Canal FM.
Comment tu vas? Très bien.
Ben à la Togolaise.
Comme ça, le Togolais commence toujours pas à aller très bien.
Bien entendu.
Et si je demande à Michel Tomega derrière la vitre, il va nous assurer qu'il se porte bien aussi.
Ah ben oui, c'est une tradition, donc même si ça ne va pas, on se plaît à dire ça va, et dans l'espoir que la Providence verra.
La preuve, Gérald Akoucha est souffrant depuis hier, mais si tu lui demandes comment ça va, il va te dire ça va très bien.
Super bien même.
Et j'ai deux amis ici, je présume qu'ils vont aussi très bien, n'est-ce pas, monsieur Conlani Compatible? Le tien-là.
Le Mani.
La Vier. Vous allez bien?
Je vais bien, monsieur Sas. Merci. Bonjour à vos auditeurs.
Et auditrices.
Et auditrices,
surtout
merci.
Surtout celles
merci.
Qui nous écoutent depuis Dapaon.
Depuis Dapaon.
Alors, c'est Tono ou bien
Tanguari? Tanguari. Voilà, exactement.
Tanguari à côté de Bomboaka.
Exactement.
Que je connais depuis 1978.
Merci.
Quand quelqu'un n'était pas né dans ce studio. Alors, avant d'aller à Bomboaka, j'ai dû traverser sûrement le pays qui a vu naître lui-même ou bien les ancêtres de M. Pelehi Sosadema, n'est-ce pas?
Parfaitement.
Biasma.
À la fière.
Alors, vous allez très bien aussi?
Ça va très bien.
Eh bien, M. Conlani Compatible, je le disais hier, il est le directeur de la législation fiscale et du contentieux à l'Office togolais des recettes, pendant que M. Pelehi Sosadema, il est le directeur du contrôle fiscal, il est en charge du guichet unique de dépôt des états financiers. Vous rappelez, depuis mardi, nous vous annonçons ces articles de journaux avec l'OTR qui fait de la pédagogie dans la présentation de la loi de finances 2023, lequel OTR également qui présente une certaine innovation à l'endroit des opérateurs économiques. Les confrères qui sont allés en reportage nous en parlent aujourd'hui, beaucoup de journaux encore, mais quelqu'un a dit que il vaut mieux que Magloire, quand oui. La tête est là, on ne porte pas le chapeau au genou, n'est-ce pas?
C'est bien cela que dit le sage.
Et comme c'est les gens de l'OTR, c'est eux qui font la pédagogie sur la loi de finances 2023, c'est eux qui présentent l'innovation, il faut qu'ils soient là eux-mêmes pour en parler.
Bien entendu, nous sommes tous oui.
Et toi avec Elon Kossi Atichogbe de la Nouvelle Tribune qui vient de nous rejoindre. Bonjour.
Bonjour Sas, bonjour à tout le monde et bonjour à tous ceux qui nous écoutent en ce moment.
Merci beaucoup. Eh bien, c'est une tradition que nous démarrions le club de la presse par une pensée du jour. Mais avant cela, nous voudrions animer cette émission, Elon, en témoignant notre solidarité avec les victimes civiles et innocentes de la guerre d'agression que mène la Russie contre l'État d'Ukraine depuis bientôt un an d'une part, également solidarité avec les victimes civiles de ces guerres de prédation, d'exploitation économique et même d'occupation du terrain, ces guerres dont est victime l'Est de la République démocratique du Congo.
Oui, également, on est solidaire envers toutes ces familles éplorées dans le cas du séisme qui a frappé la Turquie récemment avec
lundi matin.
Cette longue liste de décès qu'on ne cesse de recenser.
Et la liste qui évolue pratiquement de minute en minute.
Effectivement, je crois quand même que il y a de quoi s'inquiéter et être solidaire, témoigner toute sa compassion envers toutes ces victimes. Et donc aussi, ce qui se passe avec les rebelles du M23. On a fait ce débat la dernière fois entre le Congo et le Rwanda. Souhaiter véritablement que la paix puisse revenir entre ces deux pays et que les institutions qui sont censées jouer leur rôle dans le cadre de la du maintien de la paix et de la sécurité et puissent véritablement le faire, parce que l'Afrique même est déjà sujette à des cas de terrorisme. Il faut pas que nous-mêmes, entre les peuples, nous puissions nous armer ou nous faire la guerre au lieu de faire la guerre contre un seul ennemi qui est aujourd'hui la menace terroriste et l'extrémisme violent. Donc voilà ce que j'ai à dire par rapport à ce qui se passe aujourd'hui sur ces différents territoires.
Merci Magloire. Une petite pensée à l'endroit de toutes ces victimes innocentes un peu partout au Togo, en Afrique, dans le monde entier.
Bien entendu, vous savez que c'est cela, malheureusement, c'est à cela que nous faisons face depuis un moment. Et la solidarité étant l'une des valeurs on va dire, de notre société africaine, on ne saurait se mettre en marge, n'est-ce pas, de cette dynamique solitaire et solidaire, surtout, j'allais dire, et surtout interpeller la conscience collective des uns des autres sur ce qui est, n'est-ce pas, de cette menace qui nous envahit tous. Parce que lorsqu'on se dit indifférent par rapport à tout ceci, ce n'est pas exclu non plus que demain, que ça soit notre tour nous-mêmes. C'est pour cela que nous devons nous approprier ce problème, histoire de mener ce combat de façon unanime et de façon solidaire pour que notre continent soit épargné de ce phénomène-là qui nous met en danger.
Merci. Nous avons plein de problèmes. Hein. Nous avons faim, nous sommes mal payés, les salaires en retard. Hein. Nous avons plein de choses aussi à reprocher aux gouvernants dans la gestion des fonds publics ici et là. Mais nous oublions souvent que si nous avons la bonne santé et la paix, c'est déjà beaucoup de choses. Eh bien, pour sauvegarder notre bonne santé, pour sauvegarder la paix et la concorde, revisitons cette phrase de Martin Luther King qui a écrit que « Je n'ai pas peur de la méchanceté des gens mauvais, mais du silence des gens honnêtes. » Je n'ai pas peur de la méchanceté des gens mauvais, mais du silence des gens honnêtes. Il n'est pas concevable qu'on se taise dans des situations d'injustice avérée, orchestrée contre des gens. Loi de finances 2023, nous la connaissons, puisque le gouvernement l'a proposée, l'Assemblée l'a votée depuis les derniers jours de l'année 2022. Cette loi maintenant est confiée pour exécution au ministère des Finances, mais beaucoup plus à l'Office togolais des recettes. Et pour la bonne exécution de cette loi, l'Office, l'OTR, a jugé de faire de la pédagogie, présenter la loi de finances dans ses spécificités avec une certaine innovation dont les journaux parlent depuis la semaine dernière. Jugez-en vous-même par cette revue de presse quand Ouara le vainqueur. Ah, nous regrettons que Michel n'est pas avec nous aujourd'hui. Nous sommes orphelins de notre tchotcho.
Ah oui, quand ça est comme ça, l'ambiance n'est pas au top. Mais on va essayer.
Mais Magloire, tu sais que c'est quand le chef n'est pas là qu'on fait bien.
Bien sûr.
N'est-ce pas? Alors... Eh bien, voilà le vainqueur qui écrit donc loi de finances exercice 2023 et GUDEF, l'OTR opte pour la vulgarisation des textes. La nouvelle tribune de Elom Atichogbe, lui aussi écrit à la page 4, loi de finances exercice 2023. L'OTR explique les innovations aux opérateurs économiques, pendant que Canal D, lui aussi, parle à la page 3 de loi de finances 2023 et la plateforme GUDEF expliquée aux contribuables. Et Flambeau des démocrates, lui aussi, écrit à la page 4, Office togolais des recettes, le guichet unique des états financiers déjà opérationnel. Eh bien, monsieur Colani, vous qui êtes le directeur de la législation fiscale et du contentieux à l'OTR, avant d'aller dedans, petite pédagogie, même si nous en parlons beaucoup, c'est quoi une loi de finances?
Merci monsieur Sass, je voudrais d'abord profiter de cette occasion pour vous remercier, vous les médias partenaires, pour tout cet exercice que vous faites à l'endroit de notre population pour accompagner l'Office togolais des recettes. Et nous sommes heureux et honorés de savoir que ce que nous faisons est apprécié ailleurs. comme le témoigne le prix d'excellence qui vient d'être décerné au docteur Philippe Kokou-Tchodié, commissaire général de l'OTR par Togo Impact la dernière fois. Et là, pour dire que nous sommes dans une dynamique où le paiement des impôts ne peut vraiment servir au développement d'un pays que si tout le monde y adhère. Et revenons à la question de M. Sass. La loi de finances, c'est cette loi-là qui prévoit pour une année civile l'autorisation pour le gouvernement d'engager des dépenses et de percevoir des recettes. Donc pour dire que au 31 décembre, si cette loi n'est pas votée, le gouvernement ne peut pas avoir les moyens de fonctionner. On peut pas, l'administration fiscale ne peut pas percevoir des recettes. Et c'est une loi qui est préparée par le gouvernement, notamment le ministère de l'économie et des finances. Cette année, nous avons maintenant, depuis 2 ans, une unité de politique fiscale aux côtés du ministère de l'économie et des finances qui prépare, qui élabore ce texte-là et qui est adopté à l'Assemblée nationale.
Merci pour cette explication claire et limpide. Alors, dites maintenant, quelles sont les mesures fiscales en faveur des ménages et des entreprises dans cette loi de finances 2023?
Ok, merci. Vous savez que la fiscalité, c'est un outil aux mains des gouvernants et qui peut être orienté dans tel ou tel secteur. C'est-à-dire qu'on peut utiliser l'arme fiscale pour encourager un secteur ou en même temps décourager un secteur. Je prends par exemple, si on veut agir sur la santé de la population, on peut opter pour une taxation vraiment dosée des tabacs ou des alcools, par exemple. Mm-hmm. Inversement, et pour accompagner le ménage, et le gouvernement peut décider d'agir sur les taux des impôts. Et c'est ce qui a été fait cette année principalement. Et vous verrez que le budget de cette année, c'est un budget hautement social, où il y a plus de 49% de dépenses qui sont consacrées au social. Alors, qu'est-ce que le gouvernement a fait principalement? Il s'est agi d'agir sur les taux, le barème de l'impôt sur le revenu des personnes physiques. L'impôt sur le revenu des personnes physiques, c'est ce qu'on perçoit sur vos salaires, comme vous et moi. Et qu'est-ce que le gouvernement a fait? Et cet impôt, dans le code général des impôts, avait, on le perçoit par barème, il y avait plusieurs tranches. Et le gouvernement a essayé d'éclater et augmenter le nombre de tranches de façon à amoindrir la charge fiscale. L'impôt sur le revenu des personnes physiques, c'est un impôt progressif, de sorte que si les tranches sont diminuées, vous payez moins. Avant, on n'avait plus de tranches exonérées. Aujourd'hui, si vous avez un revenu de 0 à 900 000 annuellement, c'est-à-dire un salaire jusqu'à 75 000, vous ne payez pas d'impôt.
Mm-hmm. Est-ce que vous 15 000 le mois.
Jusqu'à 75 000 le mois, vous ne payez pas d'impôt. Donc, c'est indirectement une augmentation de salaire que le gouvernement a procédé au niveau des employeurs pour réduire cette charge fiscale-là au niveau de l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Et ce qui est normal parce que c'est un impôt, vous savez que en raison ou en fonction de la pénibilité du travail du salarié, le gouvernement a voulu faire un clin d'œil au plus bas salaire de sorte que les ménages puissent faire face à la crise de la vie chère qui sévit dans notre pays depuis quelques années.
Et il semble, M. Colani, que les revendeurs, revendeuses de tissus également se sont vus accorder une certaine réduction d'impôts.
Alors, avant d'arriver à nos mamans revendeuses de tissus, il faut souligner que ce n'est pas seulement le barème de l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Le gouvernement a fait un clin d'œil aux entreprises également. Mm-hmm. Vous allez voir qu'il y a un système ou un régime juridique qui est approprié pour les entreprises en difficulté, selon les règles du droit OADA, lorsqu'une entreprise présente des difficultés de sorte que, si rien n'est fait, elle encourt la liquidation, il faut prendre une mesure pour la sauver. Le gouvernement a prévu, il y a de cela 2 ans, un régime fiscal dérogatoire pour ces entreprises-là. On leur accompagne avec des exonérations d'impôts et taxes pour que cette entreprise ne meure pas. Ce régime fiscal dérogatoire a été reconduit. Et en plus de ça, le gouvernement a reconduit les exonérations de droits de douane et de taxes sur l'importation des véhicules neufs. Vous savez que depuis quelques années, on peut acheter une voiture neuve à Lomé sans payer de droits de douane et de TVA. Et on a reconduit également les exonérations, les abattements de droits de douane et de TVA sur les véhicules d'occasion de moins de 5 ans d'âge. Mais la plus bonne nouvelle encore pour les entreprises, c'est l'exonération des droits de douane et de TVA sur le matériel, les engins agricoles. Vous savez que nos entreprises togolaises se sont révélées peu concurrentes en matière d'appel d'offres internationales lorsqu'il s'agit des marchés. Et ils étaient parfois obligés d'aller vers le Bénin ou le Ghana pour avoir des gros engins, les grues et les engins de BTP. Donc le gouvernement a instruit pour que l'importation de ces engins et matériels de BTP, de ces engins lourds-là, ne supportent pas les droits de douane et de TVA au cordon douanier, ce qui est une bonne nouvelle pour nos entreprises et également. Et il y a également, au plan social, l'exonération de la TVA au niveau des cantines scolaires et au niveau des cantines universitaires et des cantines d'entreprises. Vous savez qu'il y a certaines entreprises qui, pour des raisons, sont obligées d'avoir en leur sein un dispositif de restauration de sorte que les salariés puissent manger à midi sans quitter, aller loin et ne pas pouvoir respecter les horaires de travail. Donc, ces cantines-là bénéficient aujourd'hui de l'exonération de la TVA, de même que les cantines universitaires où le gouvernement, dans sa politique d'avoir une éducation de qualité, veut appuyer les étudiants à pouvoir bien se restaurer. Alors, je reviens sur le cas particulier et de nos dames du grand marché. Qu'est-ce qu'on a constaté? On a vu que de plus en plus, les Nana Benz qui faisaient la fierté de l'économie togolaise font face à une concurrence rude vraiment dans leur secteur. Alors le gouvernement a voulu faire quelque chose parce que c'est un domaine dans lequel les marges sont très minimes. Et si rien n'est fait pour ces dames-là, on risque de ne pas sauver ces entreprises-là. Donc le gouvernement a décidé de leur accorder un abattement d'un impôt que nous appelons la patente. La patente, c'est un droit qui est perçu sur le chiffre d'affaires. Et comme la marge est petite, le chiffre d'affaires peut être élevé, mais ces dames n'ont pas un bénéfice aussi consistant. Donc le gouvernement leur accordera à chaque fois et qu'on va calculer la patente un abattement de 60%. Donc c'est une réduction sensible pour accompagner nos mamans du grand marché.
Merci pour nous faire l'économie de ces avantages que le gouvernement je ne dirais pas octroyer, mais à favoriser pour le monde des entreprises, avec l'espoir que les avantages iront effectivement au profit des entreprises, des salariés et de tout le Togo. À côté de cette pédagogie, Monsieur Pelleyi, la dernière fois au cours d'une séance présentée par le commissaire général en personne, vous avez présenté également le guichet unique de dépôt des états financiers, le GUIDEF. Les médias en parlent beaucoup, mais voulez-vous nous le présenter dans ses spécificités?
Merci beaucoup, monsieur Sass, pour cette occasion qui nous est donnée de pouvoir partager davantage les informations, notamment sur la réforme du GUIDEF, du guichet du dépôt des états financiers. Je voudrais dire que le GUIDEF, c'est une institution qui a été mise en place pour réceptionner de façon centralisée tous les états financiers que doivent déposer les entités concernées. Et ce GUIDEF, cette institution est sous l'autorité du ministère de l'économie et des finances et placée au sein de l'Office togolais des recettes. Au Togo, il faut dire que la directive de l'UEMOA numéro 4 de 2009, du 27 mars 2009, a institué le GUIDEF dans tous les états membres, Et au Togo, cette directive a été transposée d'abord par la loi des finances et gestion 2011, puis reprise dans le Code général des impôts, notamment à travers le livre des positions fiscales, en son article 17. Et cette institution donc a été mise en place au sein de l'État par décision du commissaire général, après avoir observé notamment tout ce qui a été prévu par la loi, notamment le livre des positions fiscales. Le GUIDEF a notamment pour mission de pouvoir collecter les états financiers, de pouvoir vérifier leur conformité de ces états financiers, notamment de tenir et de partager ces états financiers avec les partenaires désignés, notamment par la directive de l'UEMOA, et qui a été donc repris dans notre législation nationale. Donc l'objectif est effectivement de pouvoir lutter contre la pluralité des états financiers, parce qu'en fait, en réalité, lorsqu'on n'a pas un guichet unique, ça veut dire que le contribuable est amené à aller déposer son état financier un exemplaire chez chaque partenaire. Mm-hmm. Et il arrive qu'on puisse déposer un état financier différent au sein de l'administration fiscale, un autre dans une autre institution. Et donc ça permet de s'assurer qu'on a un seul état financier unique, et donc c'est lui qui est déposé au GUIDEF. Cela permet en même temps aussi de garantir l'unicité, l'homogénéité et surtout la comparabilité des informations financières. Mm-hmm. Lorsque nous avons un modèle que tout le monde suit, nous sommes sûrs que nous avons les mêmes types d'informations organisées de la même façon, et ça permet de pouvoir exploiter aisément les informations contenues donc dans ces états financiers. Qui a alors bénéficié des désignés dont je parlais tantôt de ces états financiers? C'est notamment l'Office des recettes à des fins d'imposition, si l'Institut national de la statistique des études économiques et démographiques, qui en fait usage dans le cadre de l'élaboration des comptes nationaux notamment, lorsqu'il s'agit de pouvoir évaluer la position nationale à travers ce que nous appelons le produit intérieur brut, ces états financiers sont saisis et les informations qui sont contenues sont utilisées à cet effet. Il y a aussi la Banque centrale des États des Affaires de l'Ouest aussi, qui est bénéficiaire désigné, et le greffe du tribunal du commerce. Les autres partenaires peuvent aussi en faire la demande au guichet unique, donc, qui est à l'OTR, pour avoir les mêmes informations. Là, on est sûr que le contribuable ne dépose pas d'informations différentes à plusieurs endroits et que tout le monde peut se référer à ce guichet unique pour avoir l'information unique.
Alors, guichet unique, des informations centralisées et tous les protagonistes ont la même information, avec l'avantage que ce guichet unique est en prime digitalisé. Merci beaucoup. Alors, quelles sont les entreprises et les opérateurs qui peuvent intervenir sur cette plateforme digitalisée?
Sur la plateforme digitale qui peut intervenir, d'abord, il y a d'abord les contribuables, ceux qui sont amenés à produire les états financiers, les déposer auprès du GUDEF, qui peuvent intervenir sur la plateforme, notamment par la création de leur compte. Donc, ces contribuables peuvent venir s'inscrire pour avoir un compte sur la plateforme, par la création des états financiers sur la plateforme directement. Et après cette création, les contribuables peuvent télécharger pour travailler dans le format, dans le modèle qui a été téléchargé, ou même remplir ce format en ligne. Et aussi, notamment par la demande de visa. Une fois que l'état financier est créé et est renseigné, le contribuable est amené à demander à un prestataire de visa de pouvoir regarder et d'assurer que l'état financier respecte toutes les exigences en la matière. Et donc, le contribuable peut demander à un prestataire de visa de pouvoir être son prestataire et ensuite de pouvoir soumettre l'état financier élaboré à ce prestataire de visa pour qu'il puisse apposer son visa. Et donc toujours sur la plateforme, le contribuable a la possibilité de déposer en ligne, une fois que l'état financier est visé, de le déposer dans le système du GUDEF. Qui d'autre peut intervenir? Donc, c'est, comme je le disais tantôt, ce sont les prestataires de visa et ils ont accès à la plateforme pour s'inscrire, pour pouvoir recevoir les demandes de visa envoyées par des contribuables, de pouvoir viser ces états financiers dans le système et de les mettre à la disposition du contribuable toujours dans le système pour effectuer le dépôt.
Quand vous parlez de visa, là, j'ai un peu comprendre visa dans tous les sens. Oui. Vous parlez de quel visa, vous?
Visa, c'est que le prestataire de visa a amené à faire un somme de contrôle et il donne son aval pour dire que l'état financier est bon et qu'il peut être déposé auprès de l'administration fiscale à travers.
C'est pas un visa pour aller en Ukraine.
Non, c'est pas un visa pour aller
en Ukraine. Merci beaucoup. Une dernière question. Alors, avez-vous des informations pratiques en termes de liens, de contacts à l'endroit des petits contribuables qui n'ont pas encore pratiquement accès à cette plateforme?
Merci beaucoup pour cette question. Effectivement, la plateforme pour cette année 2023 est accessible pour les grandes et les moyennes entreprises. Et les petits contribuables vont être formés au cours de cette année pour pouvoir prendre avoir accès à la plateforme au cours de l'année 2024. Et donc déjà, le GUDEF est déjà en ligne actuellement, et donc les prestataires de visa et les contribuables des grandes et moyennes peuvent avoir accès, notamment en allant sur le site de l'OTR. Le site de l'OTR, c'est www.otr.tg. Ils ont directement accès à un onglet GUDEF, et donc ils peuvent déjà commencer leur opération d'enregistrement à travers ce lien. Ils peuvent également aussi aller directement dans leur navigateur et taper le lien https://guidef.otr.tg/, et ils ont également aussi accès à la plateforme. Maintenant, pour les formalités d'inscription, il y a des formulaires qui doivent être renseignés, qui doivent être téléchargés sur le site de l'OTR. Ils peuvent également aller sur le site de l'OTR pour télécharger ces formulaires.
Vous avez à votre droite un directeur de journal, il l'a trouvé. Est-ce que le journal La Nouvelle Tribune peut avoir accès à votre au GUDEF?
Si le journal est répertorié comme étant une grande ou une moyenne entreprise, elle peut avoir accès librement à la plateforme.
Alors, Elom, la Nouvelle Tribune, c'est une grande entreprise, une moyenne entreprise ou bien une micro?
Je ne sais pas si vous connaissez une entreprise de presse de Togo qui est grande. Bon, moi, je n'en connais pas. Qui a un statut de grande entreprise, je n'en connais pas. Parce que pour avoir un statut de grande entreprise à l'OTS, ça répond à une fourchette. je crois que c'est au-dessus de combien ?
Un milliard de chiffre d'affaires.
Voilà. Donc,
un milliard de francs CFA.
Donc, vous comprenez que
seulement.
Donc, vous comprenez que c'est pas avec
nos
journaux, nos radios qu'on va faire, ou bien nos télés qu'on va faire plus d'un milliard de francs CFA par an. Donc, on est bien loin d'être au rang des grandes entreprises au Togo. Néanmoins, même au rang des moyennes entreprises, parce que ça répond à une fourchette, je pense que c'est 500 millions.
Non, moyenne entreprise, c'est 60 millions.
60 millions.
Oui.
Voilà, nous, on n'est même pas encore là. Donc, il faut nous chercher encore loin dans le classement.
Mais si on met ensemble Flambeau des démocrates, Nouvelle Tribune, Ouara les vainqueurs, Canal FM, et je ne sais, on peut aller au moins au stade de moyenne entreprise dans l'homme.
Oui, on peut le faire, et c'est une question de volonté. Mais de toutes les façons, aujourd'hui, c'est très difficile d'aller vers un GIE, un groupement d'intérêt économique. Mais c'est à ça qu'on exhorte les entreprises de presse.
Mm-hmm.
On peut le faire, mais j'opterais beaucoup plus pour une télé, une radio, une presse écrite, ou un journal, ou une presse en ligne. Ça fait 4 supports différents,
mm-hmm.
parce que vous savez qu'il y a 5 grands groupes de presse. C'est la télé, la radio, la télévision, le cinéma et l'affichage. Donc, si dans une certaine mesure, après, on peut mettre l'affichage, ça va faire quoi ? Ça va faire une télé, une radio, une presse écrite, une presse en ligne et une agence de publicité ou d'affichage. Ça fait 5 pour former un GIE. Je pense que là, on peut commencer à réfléchir bien.
Merci de nous mettre ensemble pour être plus fort, mais éviter quand même qu'un groupe de médias ne se trouve en position de monopole, parce que ça peut être préjudiciable pour la démocratie, la liberté d'expression. Merci donc, Monsieur Conlani et M. Pelleyi, mais vous restez à nos côtés. Ce que vous avez dit, ça a dû être intéressant pour les opérateurs économiques. Et quand nous allons ouvrir les antennes dans 32-33 minutes, il se peut qu'il y ait une question là-dessus. Et vous serez là pour répondre vous-même. Et pendant ce temps, ma gloire est l'homme, nous parcourons l'actualité au jour le jour avec ce qui fait le buzz depuis quelque temps. C'est le fameux rapport d'audit de la Cour des comptes sur la gestion du fonds de riposte et de solidarité COVID, rapport qui a couvert la période 2020. Revue de presse avec le journal Canal D à la page qui annonce le ton. La minorité a encore frappé. Autre journal, Le Changement, à sa manchette, gestion scandaleuse des fonds de COVID. Les vampires de la République démasqués par la Cour des comptes. Autre journal, c'est Le Tonnerre qui écrit « Tout comme dans un conte de fées, du riz et du haricot payés à plusieurs milliards, des entreprises fictives détectées n'ont vu si des milliards disparus sous des masques, ainsi de suite. » Le Bâtisseur également écrit à la page 3 des anomalies monstres mises à nu. La COVID-19 a fait plus de riches au Togo que de morts. Autre journal encore, c'est L'Intelligent. Le journal L'Intelligent, lui aussi à la page 2, qui écrit « Explosif rapport de la Cour des comptes sur l'utilisation des fonds COVID en 2020. Que nous réservent les rapports de 2021 et 2022 ?» Et déjà, L'Intelligent trouve que Fornia Singbe se retrouve face à ses responsabilités, parce que c'est le gouvernement de Fornia Singbe qui a commandité le rapport. Il vient d'avoir le rapport et les gens attendent ce qu'il va en faire. Alors, pour la suite, le dialogue écrit, gestion des fonds COVID année 2020, la Cour des comptes a fait sa part. La Nouvelle Tribune, justement, et l'homme, tu te demandes, et maintenant, alors justement, et maintenant, et là ?
Bon, c'est la grosse interrogation qu'on s'est posée ce matin, parce que depuis plusieurs jours déjà, sur les réseaux sociaux, un peu partout, on assiste ou on lit beaucoup de commentaires sur ce rapport, ce fameux rapport. Je crois quand même que si nous parcourons ces nombreuses pages de la Cour des comptes, on peut se rendre compte facilement de plusieurs anomalies. En ce qui concerne les pièces justificatives, les procédures de passation de marché public, parce que la loi dit qu'au-delà de 10, à partir de 10 millions, tout marché public doit faire l'objet d'un appel d'offres. Et aujourd'hui, on se retrouve dans un cas de figure où des gens ont passé des appels d'offres, enfin, ont passé des marchés publics de gré à gré à partir de plusieurs milliards de francs CFA, pas de millions, hein, plusieurs milliards, ils ont acheté des choses à plusieurs millions, des objets, etc., et sans pouvoir respecter la procédure de passation d'appel public. Donc, ça pose un certain nombre de problèmes par rapport à l'éthique dans les marchés publics et aussi par rapport à, même à la gouvernance. Maintenant, comme on l'a dit ce matin, quelle sera la suite ? Aujourd'hui, le rapport fait grand bruit. Oui, c'est un rapport de la Cour des comptes. Oui, la Cour des comptes n'est pas forcément à son premier rapport par rapport à, excusez la tautologie, par rapport à cet état de choses. Mais toujours est-il qu'il faut donner une suite à cette affaire. Maintenant, les mises en cause ne vont pas prendre le micro tout de suite pour donner des explications, pour venir dire ceci. C'est ce qu'on regrette d'ailleurs, parce que dans le cas d'espèce, il va falloir que, par rapport à ces nombreuses anomalies qui ont été relevées dans ce rapport, que le coordonnateur national de la cellule de riposte contre la COVID-19 et que le président du conseil scientifique et certaines personnes qui sont nommément, dont les institutions sont nommément citées dans ce rapport, puissent, dans une certaine mesure, donner certaines explications à l'opinion publique par rapport à ce dont elles les accusent et par rapport au silence dont ils ont fait preuve. Et aussi, ce qu'on peut dénoncer aussi dans ce rapport, c'est le fait que la Cour des comptes a saisi des institutions qui ont choisi de rester silencieuses par rapport à la réponse ou à des réponses qu'elles peuvent donner à cette Cour. Donc, on ne comprend pas pourquoi une institution de la République peut saisir officiellement une autre institution de la République dans le cadre de ces nombreux recoupements qu'elle est en train de faire dans la gestion des fonds publics et que l'institution refuse délibérément de donner une réponse à cette autre institution de la République. Ça se passe au niveau de l'État. Moi, j'ai trouvé ça curieux qu'une institution de la République demande à une autre de pouvoir donner des explications ou des preuves par rapport à la gestion de ceci et que l'institution refuse de pouvoir lui répondre. Je crois quand même qu'il va falloir qu'on puisse mettre de l'ordre quelque part. Parce que si nous, on se plaint, vous voyez, nous qui dames citoyens, on écrit une lettre peut-être à une institution, on ne nous répond jamais. Hein. C'est pas si quelqu'un, une fois reçu un courrier, après avoir déposé un dossier quelque part, bon, souvent, généralement, on n'a pas de réponse. Vous écrivez le courrier, vous déposez, des fois même ça n'aboutit pas. Et vous ne savez pas si le destinataire final même a lu. Ça se perd facilement dans le circuit quelque part, même si vous avez la décharge. Parce que au finish, quand vous allez voir un jour celui à qui vous avez adressé le courrier avec la décharge, vous dites « je n'ai jamais lu ». Vous comprenez ? Maintenant, ça, c'est à notre niveau, au niveau du bas peuple. Maintenant, si en haut, les gens, au niveau des institutions même qui sont censées réguler le fonctionnement de l'État, dans leurs prérogatives, ils demandent ou elles demandent à d'autres institutions de fournir des preuves, de donner des explications, d'avoir des réponses par rapport à des missions qui leur sont données, qu'on brille. Les gens ne brillent pas leur silence. Bon, ça veut dire que nous, on n'a pas de raison de nous plaindre, nous citoyens qui envoyons notre courrier.
Si, nous avons davantage de raisons de nous plaindre, parce que déjà, Elom, quand nous étions petits, nous avions dit que c'est aux imbéciles qu'on ne répond pas le silence. Alors, quand une institution écrit à une institution, à un ministère, et que l'institution interpellée ne daigne pas répondre, c'est qu'elle traite l'institution émettrice de la demande d'imbécile, et ce n'est pas normal dans la République.
Ah, mais je pense quand même que les uns et les autres doivent prendre leurs responsabilités. Nous, on fait notre travail, c'est-à-dire personne ne peut nous dire aujourd'hui qu'on ne fait pas notre travail. On remarque, il y a des faits qui sont là, on les relève, et maintenant, celui où les personnes ou les autorités qui doivent prendre leurs responsabilités par rapport à ça, elles sont là aussi. Donc, ce n'est pas à nous de dire à quelqu'un, voilà ta mission, c'est à toi de faire ceci. Tout le monde connaît sa mission. Les gens, tout le monde est intelligent dans le pays, hein. Ceux qui sont au gouvernement, tous ceux qui sont à la tête des institutions, c'est des gens vraiment instruits, qui sont calés, compétents, mais ils connaissent leur mission valablement. Donc, si vous écrivez à une institution qui ne vous répond pas, je crois quand même que ce qui a lieu de faire, il revient à ces personnes de pouvoir le faire. Et dans le cas de ce rapport, au niveau de la Cour des comptes, moi j'ai bien envie de poser une question au président de la Cour des comptes. Généralement, quand il y a par exemple un rapport de la Cour des comptes qui est publié, ou que la Cour des comptes publie un rapport qui relève des irrégularités, quelle est la procédure ? Quelle est la suite qu'on donne à ce rapport ? Moi, j'ai bien envie que le président de la Cour des comptes nous dise véritablement si la Cour produit un rapport où on constate qu'il y a détournement de deniers publics, où on constate qu'il y a manipulation, malversation financière, qu'est-ce que la Cour fait ? C'est-à-dire, quelle est la suite à donner à ce rapport? Est-ce qu'on transmet justement aux institutions et puis on se tait en attendant le prochain rapport, ou qu'est-ce qu'on fait?
Merci. Ah, je reviens donc d'abord à la nouvelle tribune qui se demande « Et maintenant ?» et l'intelligent qui écrit, lui, pour des comptes, le rapport 2020, Fornia Singbe, face à ses responsabilités. Magloire, il faut se réjouir pour une fois que ce rapport de la Cour des comptes est amplement diffusé, beaucoup de personnes s'y intéressent, les gens le commentent abondamment, c'est une bonne chose, mais pour faire le point, il faut rappeler que c'est le gouvernement qui a commandité le rapport pour la période 2020. Et la Cour dit que dans sa pédagogie, après les études, elle a interpellé certains ministères et institutions. Certaines ont répondu, d'autres pas. La Cour des comptes a pu intégrer les réactions de ceux qui ont bien voulu répondre. Elle dit même que les réponses l'ont aidé à réviser, à corriger certaines positions. Jusqu'à la fin. Et puis à la fin, la conclusion maintenant, la Cour dit globalement, la Cour des comptes relève que globalement, la procédure de la collecte, de la gestion des fonds est assez régulière. Toutefois, elle met l'accent sur les irrégularités. Mais c'est que, Magloire, plutôt, quand tu lis le rapport, à un certain moment, tu es échauffé. Mais quand tu arrives à la conclusion, c'est comme si...
Tu es refroidi.
Tu es un peu refroidi. Je ne sais pas si tu as également eu cette impression.
Non, je crois que c'est le constat que beaucoup de gens ont fait. Et d'ailleurs, je crois que depuis hier, vous savez, c'est un rapport assez volumineux. Je crois 86 pages.
Oui. Le document même fait 61 pages.
Voilà. Avec les annexes, pages, tout ça.
Avec les annexes, ça fait 86.
Et donc, beaucoup n'ont pas eu le temps de scruter au fond le rapport page par page. Mm-hmm. Et la conclusion, ou du moins le résumé dont vous venez de faire cas, se situe, je crois, à la page 68. Et quand les gens ont découvert ça, on a cru que c'était un nouveau document, alors qu'en réalité, ça faisait partie du rapport. Mm-hmm. Mais globalement, moi, je vais vous dire ceci, ça ne change en rien la donne en réalité. Parce que la Cour des comptes parle de procédure, mais à la fin, on nous dit quand même qu'il y a beaucoup de choses qui se sont faites de façon anormale. Mm-hmm. Et je pense qu'on doit s'en tenir à ça. Cette feuille-là, avec ce qu'on a fait comme littérature sur ça, ne doit pas enlever, n'est-ce pas, la substance de ce rapport, qui est donc que beaucoup d'acteurs qui ont géré ces fonds ont fait, vous m'excusez, ce qu'on peut appeler d'une gestion villageoise des fonds que le contribuable togolais et les partenaires.
C'est pas une insulte à nos parents au village. Hein?
Même pas.
Okay.
Mais c'est dire que c'est au village qu'on va acheter du devis, du piment, sans reçu et tout ça. Et on se contente de manger notre foufou et à demain, ou notre pâte, normalement, comme si de rien n'était. Mais ici, nous sommes dans une république. Et qu'on nous dise que des institutions de la république ont participé à ce que je peux appeler cette mascarade, je suis étonné. Quand on nous dit, par exemple, la Cour des comptes dit que certaines institutions ont construit des hangars dans ces fonds, et que la Cour fait observer qu'ils ne voient pas et qu'elle ne voit pas de rapport entre la COVID et la construction de hangars, j'en ris. En réalité, je ne sais pas si vous voyez aussi un rapport entre COVID et construction de hangars.
On décongestionne les marchés, on dira ça.
Si, là, on peut construire un hangar pour stocker les produits du hangar ou bien les véhicules ou bien pour abriter les gens.
Voilà que la Cour dit qu'elle ne voit pas de rapport. Donc ce n'est pas à nous de vouloir mettre la Cour en difficulté. Non, mais en réalité, ce qui se dit aujourd'hui, c'est très sérieux. Vous vous rappelez, Sass Gaou, en 2022, nous, au journal Flambeau des démocrates, on avait déjà fait sortir un article pour parler de la COVID business qui a cours au Togo. Et personne ne nous a écoutés. Et nous nous sommes en réalité basés sur un rapport de Transparency International qui a pondu ce rapport. Et ce qui concerne le Togo, c'est qu'on dit que les indicateurs qui ont servi à produire ce rapport sont des indicateurs de 2021. Vous comprenez? Et le rapport a été pondu en 2022. Et on parle de COVID business au Togo. Or, quand on voit ce rapport de la Cour des comptes, ça ne concerne que 2020. Ça voudra dire que 2021, ce qui s'est passé en 2021 est plus énorme que ce qui s'était passé en 2020 et 2022.
Oui, parce que c'est en 2020, on n'avait pas encore commencé à acheter les vaccins.
Ce n'est que les débuts, vous voyez. Et en 2022, on était de plein pied dedans. Où
en 2021 aussi.
En 2021, voilà. je voulais dire, on était de plein pied. Et j'ai vu comment on a déroulé toute cette machine-là. Et à un moment donné, on était tous contents parce que c'était une question de santé publique. La presse y est mise, on a sensibilisé au maximum la population à pouvoir se discipliner. On a chassé même les gens du secteur informel qui font leur jabo-jabo au bord de la route pour subvenir aux besoins de leur petite famille. Pendant de longs moments, pendant ce temps, on ne savait pas qu'il y a des milliards qui sont à côté et que les gens siphonnaient allègrement. Qu'on nous dise qu'on a acheté de l'haricot à combien de millions ou de milliards. Qu'on nous dise qu'on a acheté des riz à plus de 8 milliards. Des riz qu'on n'a jamais vus. Ben, je me pose la question, où est-ce que ce riz a été acheté? Où est-ce qu'on l'a utilisé? Peut-être on parle d'haricot. On parle de l'huile rouge. Je me dis en bon togolais que c'est du veilli que les gens veulent préparer. Mais où est-ce que ces veillis ont été distribués à Lomé ou à Dapan? On n'était pas au courant. Ou peut-être c'est les prisonniers qui ont mangé du veilli à plusieurs millions dans ce Togo. C'est pour dire que ce qui a été fait est assez monstrueux. Et l'homme a bien fait de poser la question, quelle sera la suite? Et d'après nos informations, comme nous l'avons dit, c'est des monstruosités qui ont mis le chef de l'État dans un état de courroux très avancé. Aujourd'hui, il paraît visiblement que des têtes vont tomber. Et c'est ce que le Togolais cherche. Parce que vous savez, moi je présume que même les plus grands dictateurs de Faure Gnassingbé ne le sont pas parce qu'ils en veulent à sa tête ou parce qu'ils ne l'aiment pas. Parce que justement, vous approchez les gens, ils disent que ben, Faure Gnassingbé, il est là, il gouverne comme il peut, mais on n'a jamais eu vent d'une sanction contre quelqu'un dont les noms ont été cités dans des dossiers qu'on connaît dans ce pays. Et ces gens-là, par rapport à leur proximité avec le chef de l'État, se glossent plutôt, se permettent de narguer des Togolais. Alors si aujourd'hui, le gouvernement ou l'exécutif togolais demande cet audit et que les conclusions sont là, menées par la Cour constitutionnelle, ce n'est la plus cour, la Cour des comptes. Ce n'est plus la presse, hein, parce que si c'était la presse, vous savez l'argument, où sont les preuves? Aujourd'hui, c'est la Cour des comptes. On ne va plus parler de preuves. Maintenant, que le chef de l'État agisse pour que les Togolais soient situés.
Merci. Le rapport ne porte que sur la période 2020. Alors, est-ce que le gouvernement va demander également l'audit pour la période 2021 et 2022? D'abord, d'ici là, qu'est-ce qu'on fait de ce rapport? C'est bien d'avoir un rapport, mais c'est encore mieux que ce rapport soit, disons, exploité. Et comme c'est le gouvernement qui a commandité le rapport et l'homme, on ne peut que demander au gouvernement de nous rassurer sur l'utilisation qui sera faite de ce rapport, même si Front des démocrates voit déjà que la justice doit s'auto-saisir. Et là encore, il faudra qu'on nous explique. Est-ce que M. le procureur de la République peut se baser sur ce rapport de la Cour des comptes et commencer par adresser des interpellations? Ou bien est-ce que c'est le gouvernement, président de la République, premier ministre, ou bien un ministre, qui doit instruire? Qu'est-ce que la procédure dit?
C'est pour ça que j'ai chuté lors de ma première intervention sur le sujet en disant qu'on doit poser des questions à la Cour des comptes. Généralement, quand il y a de ce genre de rapports qui sont publiés, quelle est la suite à donner? Qu'est-ce que la procédure dit? Est-ce qu'on publie, on remet à l'exécutif, parce qu'on a fini notre travail, et l'exécutif réserve une suite à l'affaire, ou on peut véritablement poursuivre le processus en saisissant les juridictions? Ça relève des compétences de la Cour des comptes. Je ne suis pas membre de la Cour des comptes.
Okay, nous allons chercher si la Cour des comptes a fini son travail et s'arrête. Qui prend maintenant la suite?
La suite, parce que là, elle a fait son travail. D'accord, elle a publié un rapport, voilà, sur le travail qu'on lui a demandé. Maintenant, qui prend le relais? C'est la justice ou le gouvernement? C'est là qu'il faut poser des questions. Ça. Maintenant, sur le fond de l'affaire même, vous rappelez, il y a beaucoup de, d'anomalie dans ce rapport. Je ne vais pas me mettre à... Parce que les gens ont suffisamment lu aujourd'hui. Tous les Togolais ont lu. Il y a des commentaires sur les réseaux sociaux qui vous font tourner même la tête parce que, justement, il y a des choses inimaginables dans ce rapport. On a constaté que la période de Covid était une période de business pour tous les États en Afrique. Parce qu'il y a plein de scandales dans plusieurs pays africains.
Notamment le Sénégal. Il y a également un rapport qui porte sur autour d'un milliard.
Voilà.
Et au Sénégal, déjà, ça a commencé à manifester dans les rues.
Effectivement.
Les gens protestent dans les rues pour demander toute la clarté.
Parce que ce qu'on nous a fait vivre dans cette affaire, ça, de 2020-2022, c'est énorme. Couvre-feu, paiement de... On faisait les tests Covid pour voyager au moins 3-4 fois par semaine. Vous payez 75 000 si vous voulez express, vous payez 35 000. Il y avait des restrictions énormes. Énormes. Mais vous ne pouvez pas en revenir. Donc, si aujourd'hui les gens demandent des comptes, c'est justement parce que tout le monde a contribué. Qui n'a pas payé des frais de Covid ou bien des frais de. Comment on appelle ça ?
Merci.
Dépistage, voilà, ou de détecte, ou de.
Flambeau, voire de. Ou d'analyse. Une
donc, aujourd'hui oui. Ce qu'il y a lieu de faire, c'est que, justement, au niveau du gouvernement, on puisse prendre des dispositions pour que les uns et les autres soient mis devant leurs responsabilités face à ce qui s'apparente aujourd'hui comme un
gros scandale. Merci. Flambeau parle de riposte imminente. On verra d'où viendra cette riposte et en quoi cela va consister. Mais je voudrais toutefois que nous nous gardions de jeter le bébé avec l'eau du bain. En 2020, je me rappelle encore la peur au ventre, comment nous bravions les risques quand nous sortions de nos maisons pour venir ici à la radio faire des émissions. Je me rappelle, vous les confrères qui couriez ce risque-là. Je me rappelle également les personnes ressources, les médecins, les agents du ministère de la Santé, les membres du conseil scientifique, toutes les personnes ressources qui prenaient ce risque-là pour venir nous parler, sensibiliser. Ça, c'est pour ce que nous avons fait dans les médias. Je sais que la coordination également fait un travail. Les gens qui étaient qui se portaient au secours des gens, les personnes positives, comment les loger, tout ça n'a pas été vain. Donc gardons-nous de jeter le bébé avec l'eau du bain, tout en veillant quand même à ce que la vérité soit faite.
Non, je crois que vous avez essayé de dire ce qu'il y a de faire aujourd'hui. Il est loin de nous, en tout cas pour ce qui est de ma part, d'accuser qui que ce soit. Mais je constate tout simplement que la Cour des comptes a rendu un rapport qui met en cause plusieurs institutions de la République sur la gestion des fonds Covid. Maintenant, ce qui nous préoccupe ici, ce n'est pas ce que Kofi a fait ou ce que Kodjo a fait, mais c'est que et la Cour et toute la machine ou l'exécutif qui a commandité ce rapport puisse agir pour que les Togolais soient véritablement se situer sur le bien fondé ou la pertinence même de ce rapport. Voyez-vous, donc c'est ce qu'on peut dire maintenant. Quand nous disons que la justice doit s'auto-saisir, vous avez bien fait, n'est-ce pas, de faire un détour au Sénégal pour dire qu'en réalité, ce n'est pas qu'au Togo. Dans plusieurs pays d'Afrique, la Covid a été véritablement une période qui a permis aux gens, n'est-ce pas, d'augmenter leur bourse, de faire, ou du moins de s'enrichir beaucoup plus. Alors, au Sénégal, qu'est-ce qui a été fait dès que la Cour des comptes a rendu son rapport, qui également a mis en cause plusieurs institutions de la République? C'est le procureur de la République qui s'est auto-saisi de ce dossier et a commencé par interpeller des gens. Et c'est pour cela que nous disons les bons exemples, on ne peut que les copier. Et donc, quand bien même qu'on ne connaît pas trop les tests qui régissent le fonctionnement de la Cour des comptes, je présume que ce n'est pas le chef de l'État qui va peut-être commencer par appeler les ministres ou tous ceux qui sont impliqués dans ce dossier pour leur demander comment vous avez géré les fonds. Mais il revient à la justice et je me dis que c'est le procureur de la République qui, peut-être par son profil, est la personne la mieux placée aujourd'hui.
Merci. Un confrère disait hier que certaines personnes interpellées, mises en cause, devraient déjà prendre des mesures conservatoires pour se mettre en retrait, le temps d'apporter les justificatifs. Si ce n'est pas le pouvoir qui le fait. Et puis, c'est bien de rappeler qu'au Sénégal, le procureur de la République se serait déjà auto-saisi. Mais il y a également un phénomène. Je ne sais pas si vous avez vu France 24, mardi ou mercredi, vous avez vu le peuple sénégalais s'est répandu dans la rue pour demander toute la vérité de toute cette affaire. Vous me direz,
Ça, c'est le Sénégal, d'accord. Mais je rappelle ce qui se fait au Sénégal. Peut-être que, comme quelqu'un dit que les bons exemples, on peut les copier. Donc, on va voir. Alors, la corruption, toujours, c'est l'actualité. Parce que nous l'annoncions depuis quelques jours, et Flambeau nous le rappelle, c'est aujourd'hui même que le juge Kimela Balo Abba, le tout nouveau président de la APLUSIA, prête serment devant la Cour suprême.
Ouais.
Et il y a mardi, le président de la APLUSIA a été reçu en audience par le président de la Cour suprême. Et j'ai rappelé hier une partie des propos que le président de la Cour suprême lui a tenu. Le juge Yaya, qui demandait au juge Abba de commencer par sensibiliser la chancellerie et les membres de son bureau pour se mettre à l'abri des démarcheurs qui transportent la corruption partout, dans les formations sanitaires, même dans les cimetières. Et le juge Yaya dit que les démarcheurs s'apprêtent même à corrompre Dieu pour s'acheter une place au paradis. Alors, vous avez une idée de ce que c'est la corruption dans ce pays. Eh bien, c'est dans ce contexte que M. Kimela Balo Abba prête serment aujourd'hui devant la Cour suprême. Le changement, lui aussi parle de lui à la page 4 et écrit « Le nouveau président de la APLUSIA peut-il changer un tronc d'arbre en crocodile ?» Et le tonnerre, lui aussi écrit à la page 6, Abba Kimela Balo a du pain sur la planche. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire, l'homme.
Oui, visiblement. De toutes les façons, il y a quand même un lien entre la nomination du juge Abba en tant que président de APLUSIA et le rapport de la Cour des comptes. Je ne sais pas si les gens ont fait attention, mais...
Ah, on parlait tantôt d'un rapport. Toi, tu en vois un.
Oui, mais écoutez, moi dans ma philosophie de tous les jours, le hasard n'existe pas. Mm-hmm. Vous voyez quelqu'un qui est nommé en tant que nouveau président de APLUSIA, et dans la foulée, il y a un rapport qui est publié officiellement.
Mais ce qu'il faut rappeler, c'est que le juge Abba, il venait à peine d'être envoyé au JABA,
oui.
Qu'on le rappelle du JABA pour présider la APLUSIA.
C'est qu'il y a urgence.
Oui, c'est pourquoi je dis, je ne sais pas si les gens font le lien, mais il y a quand même quelque chose à voir, parce que justement, le politique ne dira jamais tout. Mais de toutes les façons, de toute évidence, il faut qu'on puisse faire le lien entre cette nouvelle nomination à la tête de cette institution et le rapport qui vient d'être publié par la Cour des comptes. Maintenant, est-ce que ce rapport va être transmis par le gouvernement à la haute autorité de lutte contre la corruption pour disposition à prendre, ou parce que APLUSIA aussi dispose quand même d'un arsenal juridique dans un périmètre juridique dans lequel elle intervient, sauf que je ne sais pas s'ils ont un pouvoir coercitif.
Je ne pense pas.
Voilà, je ne sais pas s'ils ont un pouvoir coercitif. Donc,
en tout cas, on n'a pas senti ce pouvoir coercitif sous l'ancien président.
Donc, mais si aujourd'hui, parce que tout peut arriver, tout est possible, si demain on constate que le nouveau président de APLUSIA avec l'équipe qui a, parce que ses collaborateurs sont toujours en fin de mandat, il faut le rappeler, ils attendent toujours d'être remplacés. Avec sa nouvelle équipe, si il aujourd'hui pose, ou bien demain pose des actions qui vont au-delà de ce que l'ancien président a fait, ce qui m'étonnerait, parce que l'arsenal juridique est là, le périmètre juridique est là, on va se poser beaucoup de questions. Donc, est-ce que entre APLUSIA et la justice, qui va se charger de ce rapport de la Cour des comptes? De toutes les façons, on a vu à la tête du JABA, du juge Abba, Kimela Balo, c'est ça? Kimela Balo Abba. Donc, on attend de voir ce qu'il va faire au niveau d'APLUSIA, parce que le JABA, c'est une grosse machine. C'est une grosse machine de la CEDEAO qui est basée à Dakar. Donc aujourd'hui, il est rappelé à Lomé pour pouvoir faire ses preuves après avoir justement fait une expérience au niveau du JABA.
Merci. Un auditeur nous dit que les institutions valent aussi bien par leur force légale que par la personnalité qui les préside.
Exactement.
Oui, c'est vrai aussi.
Oui,
c'est vrai.
Alors, Magloire, c'est que tu es tenté par... la APLUSIA, mais je voudrais plutôt que tu nous parles de cet article que Flambeau écrit à la page 3. Le 26 février, ça aura fait un an que le gouvernement a lancé un concours général de recrutement dans la fonction publique. Des dizaines de milliers de Togolais y ont cru
ils sont allés écrire. Ça fait bientôt un an que cette attente continue à durer.
Oui, ça fait presque un an, comme vous l'avez dit, que les Togolais sont dans l'attente donc de la proclamation des résultats de ce concours. Et depuis là, on dira donc que ça a eu des répercussions sur certains d'entre eux. Des gens ont entendu pendant longtemps. Certains qui sont assez fatigués d'attendre ont fini par se chercher ailleurs. D'autres, malheureusement, ont trouvé malheur en chemin, c'est-à-dire ils se retrouvent de l'autre côté de l'univers. Malheureusement, c'est la vie. Mais au même moment, ce que nous avons estimé important de relever en remettant sur la table ce débat, c'est que en annonçant ce concours en septembre, et dont les épreuves écrites ont
en septembre
2021, et les épreuves écrites ont eu lieu donc en février 2022. Le gouvernement togolais, au travers donc du ministre en charge de la fonction publique, M. Gilbert Bahora, avait donc expliqué aux Togolais que le gouvernement se doit donc de procéder par ce recrutement parce que il y a beaucoup de gens partent à la retraite et donc il y a beaucoup de places.
Il y avait des postes vacants dans la fonction publique.
Alors, on ne peut pas objectivement tenir ce discours et passer, n'est-ce pas, à l'étape écrite d'un concours et un an après ne pas être en mesure de donner les résultats. Ce n'est pas une manière pour nous de les accuser, mais c'est de les exhorter à aller rapidement, parce que c'est dans l'intérêt de l'administration togolaise. Vous savez que la dynamique, c'est qu'on veut procéder, ou on est en plein processus de réforme de l'administration togolaise, qu'on veut plus moderne, plus pragmatique,
et plus réactive.
Alors, on ne peut plus se permettre de maintenir ces postes vacants-là un an après, pendant que, au jour le jour, les gens partent toujours en retraite. Et parallèlement à ça, il y a également un autre concours qui a été fait en juin 2022 qui concerne les enseignants, beaucoup plus de la matière scientifique, qui eux également attendent les résultats. Et ça fait près de 6 mois qu'ils attendent. Donc, ça fait beaucoup plus. C'est vous qui avez l'habitude de dire qu'au temps de Edem Kodjo, il paraît qu'il y a eu un concours
aussi. Il paraît.
Ah, c'est une évidence.
Oh, oui.
Donc, on ne va plus se replonger dans le passé, mais ce qui a lieu de faire aujourd'hui, c'est que ces récents concours soient rapidement proclamés.
Mais entre Edem Kodjo qui n'est plus et le concours général, il y a également des concours sectoriels. Ministère de l'Agriculture, ça doit faire déjà bientôt deux ans. Mmh. Il y a également un concours dans le domaine par le ministère des Finances.
Ouais.
Et deux,
ça
trois
fait,
ans.
Ça fait
et surtout, c'est que on ne dit plus rien. C'est nous, journalistes seulement, qui interpellons. Je ne sais pas si on ne répond pas à le silence aussi. Mais à l'endroit de ces jeunes qui ont passé ce concours et à qui on ne dit rien, mettons-nous à leur place. Moi, après, je suis passé par le chemin, je sais ce que c'est. Alors, quand un jeune finit les études, tu passes un concours dont tu attends tout et dont on ne te dit rien. Bon, terminons avec cette opération annoncée et que Payadoua Bokwesi vient de rappeler. À partir du 15 février prochain, les abords des grosses artères doivent être dégagés. La nouvelle tribune, tu nous en fais le reportage.
Oui, je ne sais pas si je dois beaucoup commenter. Je crois que beaucoup de personnes sont au courant. Et je crois qu'aujourd'hui, au niveau des mairies, au niveau même des institutions décentralisées, parce qu'il y a une réunion entre le ministère d'État, ministère de l'administration territoriale et les maires au sujet de ce moratoire et qui commence, je pense, mercredi, c'est ça? Mercredi, à partir de mercredi prochain.
Le 15 février.
Oui, c'est le 15 février.
Lendemain de la Saint-Valentin.
Oui, donc le ministère le gouvernement a demandé qu'on puisse dégager les voies publiques, les abords, etc. Parce que aujourd'hui, il y a un peu, comme on a dit la dernière fois, les gens qui mettent des conteneurs un peu partout. Vous vous levez un matin, vous voyez qu'il y a un conteneur devant votre clôture quelque part, vous prenez un cornet, il y a trois conteneurs alignés, on ne comprend plus rien. Donc, il faut que véritablement on puisse moraliser cela, mais aussi faire de la prévention, parce que les mairies aussi, les maires ne doivent pas aussi attendre que les gens viennent mettre plusieurs conteneurs avant de pouvoir venir les dégager. Mm-hmm. Parce que si les gens mettent les conteneurs, vous percevez des taxes communales, vous circulez avec vos véhicules de recouvrement et vous leur payez, vous leur prenez des sous, ils viennent chez vous au niveau des mairies pour payer des taxes communales et puis un beau matin, vous leur demandez de dégager, il y a un problème.
Ah, ça veut dire que vous reconnaissez... À côté, il y a des gens, les spécialistes de l'argent ici...
Ça vous dit que vous reconnaissiez leur légitimité. Ouais. Et un bon matin, bon, on demande de pouvoir de les recaser. Donc, je crois qu'il faut faire aussi de la sensibilisation, de la prévention.
Ouais. Et c'est ce que nous faisons. Paya de Apoprissi l'a rappelé hier, avec à ses côtés certains de ses collègues ministres, avec les préfets, les maires. À partir du 15 février, il faudra dégager les voies. Du 15 au 22 février, des lourdes amendes seront imposées aux contrevenants. Le décaplissement proprement dit commencera à partir du 23 février où les bulldozers rentreront en activité. Je cite Nouvelle Tribune qui cite Paya de Apoprissi, n'est-ce pas?
Oui, effectivement.
Et puis ça. L'opération de désengorgement ne concerne que les voies bitumées pour le moment.
Oui, pour le moment, il s'agit des voies bitumées. Il faut le préciser, c'est très important. Pour le moment, dans un premier temps, ce sont les voies bitumées qui sont concernées.
Nous suspendons nos débats d'ici là. Il est 12h02, le temps que nous soufflions un peu, que Michel témoigne la gratitude de Canal FM à nos partenaires. Puis nous revenons avec vous, les auditeurs. Monsieur Colani, Monsieur Pelli sont à nos côtés pour répondre à vos préoccupations, les confrères et l'homme et ma gloire, pour revenir sur quelques sujets que nous avons discutés avec vous. Michel. 93.5. Eh bien, c'est parti. Les deux numéros, vous les connaissez. Les confrères, personnes ressources sont à votre disposition autour de la table. Premier auditeur qui entre en ligne, bonjour.
Oui, ça c'est bonjour.
Oui.
Je salue tout le plateau.
Oui, monsieur Senghor.
Oui, que Dieu bénisse le Togo.
Amen.
Bon, ça vous savez, dans la Bible, c'est un livre qui est différent à tous les livres.
Voulez-vous diminuer un peu le volume de votre poste récepteur? Ça voilà, siffle dans nos oreilles.
La Bible dit, dans Ecclésia chapitre 3, que chaque chose a son temps. Il y a un temps pour rire et il y a un temps pour pleurer. J'ai l'habitude de dire que aucune république n'appartient pas à un homme. Et c'est vrai, je voudrais parler des fonds de Covid qui ont été détournés. Et nous devons savoir que le Togo appartient à des 8 millions d'habitants. Et on ne peut pas comprendre ça, que les gens prennent vraiment un pays comme une propriété privée. Deuxième inquiétude, ce matin j'écoutais une radio où les opposants qui sont en train de faire des déclarations lançant un appel au chef de l'État, Ponya Simbe, de se lever pour faire... Non. Le chef de l'État n'a rien fait dans cette affaire. C'est Dieu même qui s'est levé. Bon, dites-moi ça. C'est les 700 millions qui sont plus nombreux que les 26 milliards. Les 17 milliards de OTR après Capéry. Les 600 millions des éperviers. Les 400 millions, les 500 milliards. Où étaient ces opposants? C'est la question. Et c'est maintenant qu'il faut se lever. Donc c'est pour dire que il y a un temps. Dieu a pris son bâton. Ce n'est pas le chef de l'État. Lui, il est un canal seulement. Et je sais qu'il y aura une restitution. Je vous remercie beaucoup.
Merci. Nous revenons à des considérations beaucoup plus profanes avec le deuxième auditeur en ligne. Bonjour.
Bonjour.
Oui.
Abdel.
Comment allez-vous?
Ah, nous rendons grâce à Dieu.
Toujours pour bondir dans le même sens que mon prédécesseur.
Mm-hmm.
J'ai foi à mon président, le président Faure Gnassingbé, chef de l'État, chef suprême de l'armée, premier magistrat du pays. Si la population togolaise lui a conféré tous ses titres, c'est pour, n'est-ce pas, assurer sa sécurité et ses intérêts. Je ne vois pas le président de la République. Mon président Faure et Sozana Gnassingbé se taire devant une telle situation. Se taire devant une telle situation, c'est abdiquer. Ou c'est qu'il a toujours été hypocrite avec le peuple et n'a jamais aimé le peuple. Sinon, je disais, ailleurs, à moins de 48 heures, les têtes vont tomber. Parce qu'il y a des choses qu'on ne permet pas lorsqu'on est à la tête de la République. La République, ça se respecte. La République doit avoir une certaine image vis-à-vis de sa population. Merci beaucoup, Sass.
Je vous en prie, Abdel. J'espère que ce n'est pas un atalakou. En tout cas, dans le même sens, le journal Intelligent écrit ce matin à la page 7, Togo face aux dérives, un nouveau gouvernement s'impose. C'est le journal Intelligent à la page 7. L'auditeur suivant, bonjour.
Oui, c'est Ali.
Ali.
Oui, tout ceci confirme ce que je dis et vous me trouvez comme si je suis trop cru. Et le président a tout le pouvoir d'agir pour nous mettre à l'aise dans le pays. Voilà que ses amis autour de lui s'organisent pour détourner les fonds. Et c'est à lui d'agir. Il ne faut pas épargner le président dans cette affaire parce que le procureur de la République doit s'auto-saisir dans cette affaire. Et ensuite, le président est obligé d'agir parce que c'est lui qui est le premier qui a eu la délégation du pouvoir de la part des populations. C'est à lui qu'on va demander les comptes. Donc, il n'a qu'à demander les comptes à ses délégués pour nous rendre compte. Dans ce cas, s'il n'arrive pas à agir, à jamais, il va marquer négativement la population togolaise et c'est parti pour toujours. Concernant OTR,
oui.
S'il vous plaît, l'invité qui est là-bas n'a qu'à nous confirmer si l'année surpassée, l'année passée, ils ont eu des... ils ont dépassé l'objectif fixé. C'est-à-dire, exemple, ils ont prévu prendre par exemple les 2500 comme pour l'année, mais ils ont eu 3000. Ils sont contents de ça, oui. Mais les populations qui ont contribué n'ont pas de premiers soins à l'hôpital. Comment ils trouvent ça? Est-ce que c'est relatif? Est-ce que c'est les retombées de ce que OTR regroupe revient à la population? Merci.
Je vous en prie, Ali, je vous aime bien. Nous disons la même chose avec des mots différents. Je vais reporter votre préoccupation aux deux invités de l'OTR avec nous. Mais d'ici là, le prochain, bonjour.
Allô?
Oui, bonjour.
Ah, monsieur Garo.
Ah, monsieur Garo.
Oui, lui-même.
Lui-même.
Voudrais...
Il n'y a pas deux.
Je voudrais parler à propos de Covid Gate.
Oui.
Bon, il est temps que le chef de l'État demande des comptes à ces messieurs. Parce que si vous, les journalistes, vous commencez à parler, le chef d'État n'agit pas. Ah, je ne veux pas que le Cameroun vienne au Togo. Si les gens ne veulent pas payer et le chef de l'État ne dit rien, donc on n'a qu'à envoyer la facture de montant volée au chef de l'État pour qu'il rembourse le trésor. Si le président ne les arrête pas, donc lui-même n'a qu'à rembourser ce qu'on a volé. Monsieur, bonne journée.
Ça, c'est dit vraiment, monsieur Garo. Merci. Le suivant, bonjour.
Salam alaikum, monsieur.
Ah, monsieur Harris.
Je salue les chers invités.
Depuis Azaou.
Effectivement, j'ai une question à l'agent de l'OTR qui est avec vous.
Oui.
Je voulais savoir comment se fait la répartition des fonds collectés par l'OTR dans chaque préfecture.
Mm-hmm.
Est-ce que les 100% des fonds vont à la caisse de l'État ou bien il y a une partie qui reste dans la préfecture? Comment se fait les répartitions?
Okay. Merci beaucoup. Ok. Comment se fait la répartition des taxes et impôts collectés par l'OTR? Merci. Le suivant, bonjour.
Bonjour.
Oui.
C'est Johannes.
Ah, Johannes.
Oui.
Ça fait un petit moment.
Oui. Tout d'abord, par rapport à l'exemple du Sénégal que vous donnez, par rapport à la population qui sort pour réclamer que justice soit faite, je n'ai vu aucun manifestant être gazé. Je n'ai vu aucun manifestant être pourchassé. Voilà. Contrairement à l'exemple que nous donnons aux autres pays africains, je ne vois pas cette manifestation pouvoir se tenir tant que les politiques commencent à gazer n'importe comment. Les gens manifestent ici pour des raisons, de simples raisons qui n'ont rien à voir avec la politique. On a vite fait de les gazer. Aussi ajouter cet exemple-là. Le deuxième point, par rapport au dégagement des conteneurs, vous savez, quand on voit la manière dont les communes ont été morcelées dans la ville de Lomé, la ville de Lomé ne devait compter peut-être au maximum que 2 à 3 mairies. Mais voilà comment on les a morcelées. Ce qui a fait que quand ces mairies sont arrivées, la première des choses, c'est comment faire pour avoir des moyens de leur action. Les communes sont morcelées. Ils n'ont pas suffisamment de sous-revenus sur leur territoire. Les mairies se sont vite attaquées aux petits commerçants qui se trouvent dans les conteneurs pour avoir des sources de revenus. Voilà qu'aujourd'hui, l'État a laissé jusqu'à ça pousser un certain point. Et c'est, pour moi, c'est un piège pour pouvoir retourner la population contre les mairies. C'est vrai, on me dira, dans toutes les mairies, il n'y a pas que les toutes les mairies où cette mesure sera appliquée. Il y a également des maires qui viennent du parti au pouvoir. Mm-hmm. Mais quand on voit la majorité, c'est des maires qui viennent plutôt de l'opposition. Et puis, je veux ajouter que quand quelqu'un s'efforce à salir l'autre, il est obligé de se salir en partie avant de pouvoir salir l'autre. Donc, les maires, ils sont tous mis dans le même paquet.
Merci, Johannes. Sauf que sur l'ensemble des 117 communes, la très grande majorité viennent plutôt de la mouvance du pouvoir. Le suivant, bonjour.
Bonjour, mon directeur et fils de AOT.
Et de partout aussi, hein. Je suis comme vous.
Bon, merci beaucoup pour tout ce que vous faites. Le dégagement des rues, conteneurs, vous avez déjà écouté ce que j'ai. Les conteneurs aux alentours des établissements publics et scolaires, vous savez, je suis pédagogue, je ne peux pas accepter. Les rues, sous les feux rouges, on vend des choses, mais qu'est-ce que ça veut dire? Troisièmement, ceux qui ont pris l'argent là, vous appelez ça quoi, guette, monsieur Darou venait de parler. Mais l'être humain a combien de ventre, combien de sentiments? Ils vont faire quoi? Monsieur, mon directeur, oui. 2 milliards, vous allez encaisser, vous allez mourir laissé. Or, ce qui n'est pas de votre vivant, c'est pas normal que les Togolais soient conscients, qu'ils aient de l'humilité, qu'ils aient pitié des autres. Mon directeur, Ndadia.
Ah oh, le Tonyango là, papa Sibiti.
Combien de temps nous allons faire sur cette terre? Nous allons prendre des milliards. Non, merci que le président... Ce qu'il faut faire pour arrêter tout ça, moi je ne veux que la paix pour le Togo.
Merci beaucoup. Surtout le contexte dans lequel cet argent a été mobilisé, que les gens ont détourné, quelque part... Bon, je me réserve. Dernier auditeur, bonjour.
Ah, Dieu merci.
Oui.
C'est Commis.
Commis, l'abonné.
Oui, moi j'ai des questions à vous et puis aux invités.
Oui.
Sur la question du rapport, comme vous venez de le dire, c'est la face visible de l'iceberg. Quand moi j'ai parcouru, et que en période difficile, les gens sont capables de voler à cette hauteur, il faut imaginer lorsqu'il n'y a pas de difficultés, combien ils sont capables de voler. Comme le dit souvent ma grand-mère, qui vole un nœud, volera un bœuf. Le constat amer, les gens volaient beaucoup de choses. Et c'est possible d'inviter les responsables de la Cour des comptes? Si oui, j'ai pas vu les traces des fonds, des tests Covid pour les voyageurs et la pénalité que prennent les faux apps lors de la période. Si peut nous informer là-dessus. Pour ce qui concerne la presse, j'ai lu dans le rapport en page 28 que les deux ministres qui sont censés être porte-parole du gouvernement, ont dépensé 68 600 000 pour la communication, la sensibilisation, animation des émissions. Est-ce que vous, la presse, vous avez senti dans vos rangs ces pareils fonds? Maintenant, pour les invités, j'ai pu comprendre que vous avez fait exonération, mais je trouve que ces exonérations font pas belle aux hommes riches. Je nomme les voitures de 5 ans d'âge. Vous savez que la plupart des Togolais, nos voitures dépassent 20 ans. Comment se fait-il que vous n'avez pas pensé à nous, de deux sur la question des TVN. À ce jour, je vous parle, il y a des véhicules qui sont au garage. Mais quand on répare, on veut payer la TBM pour réclamer l'année passée, l'année surpassée. Sur quelle base ça se fait? Et pour que quelqu'un puisse déclarer son véhicule pour ne pas en payer, comment ça doit se faire? Pour finir, par rapport à la Cour des comptes, on vous a cité dans le rapport que vous avez suspendu des montants de 623 millions au profit des PME et des fonds, des montants perdus de 6 121 millions au profit des petites et moyennes entreprises. Comment nous qui avons des entreprises PME pouvons constater que vraiment nos taxes ont été suspendues ou bien vous nous avez allégé la tâche? Merci.
Je vous en prie, beaucoup de questions, chers amis de l'OTR, beaucoup d'efforts de synthèse également pour répondre. Alors, premier auditeur, est-ce que l'OTR a dépassé les planchers les années passées? Si oui, quelle a été l'utilisation faite de l'argent collecté par l'OTR? Monsieur Colani?
Oui, merci. Je voulais préciser qu'au niveau gouvernemental, chacun fait son travail, et comme le journaliste l'avait dit. Nous sommes une administration fiscale. Notre mission, c'est de collecter les recettes pour le gouvernement. Nous ne nous occupons pas de la gestion des ressources collectées. Mm-hmm. Donc, c'est le gouvernement qui est responsable de l'utilisation des ressources. Donc, mm-hmm. l'administration fiscale se cantonne dans son rôle de collecter les recettes pour le budget de l'État.
Mm-hmm. Mais est-ce que vous avez eu à dépasser le plancher qui vous avait été fixé?
Oui, effectivement, nous avons fait des efforts depuis quelques années. Nous avons toujours dépassé nos prévisions.
Merci.
Et donc, c'est à l'actif de tous les citoyens togolais.
Vous collectez, mais vous ne vous occupez pas de l'utilisation. Et qu'en est-il de la répartition? Comment répartissez-vous ce que vous collectez?
Alors,
comme taxes et impôts?
Alors, au niveau de la répartition, nous avons une fiscalité qui est dédié aux collectivités locales et d'autres impôts qui vont au budget de l'État. Alors, les impôts et taxes comme la taxe d'habitation, la taxe de voirie, et les droits d'enregistrement sur l'immatriculation des immeubles, il y a des impôts qui vont directement au budget des collectivités. Mmh. Et d'autres impôts comme la patente, les taxes foncières sur les propriétés bâties, les taxes foncières sur les propriétés non bâties, mmh. font l'objet d'une répartition entre le budget de l'État mmh. et le budget des collectivités. Donc, les taux de répartition sont fixés par le Code général des impôts. Lorsqu'on collecte ces impôts au niveau de l'OTR, au niveau de la direction des finances, il y a une répartition qui est faite mensuellement pour retourner aux collectivités. Mm-hmm. Maintenant, avec l'administration territoriale, il y a un décret qui répartit maintenant les recettes des collectivités avec la NASAP, le Fonds d'appui aux collectivités territoriales et autres.
Merci. Vous avez écouté Comi qui disait que la loi de finances fait plutôt la part belle aux plus riches, notamment pour ceux qui achètent les voitures neuves, qui ne paient rien, alors que nous qui avons des voitures aussi vieilles que nous, rien, alors... C'est nous qui payons beaucoup.
Oui, et il a raison de le dire par rapport à la bourse du Togolais Lambda, mais il faut aussi souligner que nous sommes dans un contexte où on a des contraintes environnementales. Aujourd'hui, si on a des véhicules qui doivent, si on doit encourager l'importation des véhicules qui ont plus de 5 ans et jusqu'à 20 ans, vous voyez les conséquences aussi sur l'environnement. L'idéal serait aujourd'hui, et je pense que c'est en train d'arriver avec les banques, d'accompagner quand même les citoyens par le mécanisme de leasing à pouvoir acheter des véhicules neufs. Parce que lorsque vous achetez un véhicule qui est en bon état, vous dépensez moins. En droit, on dit qu'il paie mal, paie deux fois. Vous serez obligé, des gens achètent des véhicules, le temps de quitter à Corée, ça va arriver peut-être à Nukafu ici, c'est déjà en panne.
Ils ont fait trois garages.
Et voilà, là, il est passé par trois garages. Tous les jours, il faut aller à Moutivé chercher les pièces et ça revient encore plus cher. Donc l'idéal serait quand même d'avoir des véhicules
plus solides. Vous avez raison. Et vous donnez raison à ma fille qui dit que papa, le moins cher se révèle toujours plus cher.
Exactement. Et l'autre question par rapport à la TVM.
La TVM, donc voilà. Réclamer les arriérés.
Exactement. Lorsque la voiture est au garage, il faut aller souligner ça et notifier au service des impôts que votre véhicule est au garage. Donc, lorsque vous allez reprendre la voiture, vous revenez signaler que ma voiture a repris et que je peux commencer par... On peut vous décompter le délai.
Et puis, il dit également qu'il n'a pas beaucoup senti les avantages concédés aux PME, PMI durant la période Covid.
Durant la période Covid, il y avait tout un ensemble d'avantages qui avaient été déroulés. La suspension des contrôles fiscaux, l'abandon des pénalités, les mesures de recoupement forcé ont été interrompues et l'administration fiscale a respecté toutes ces mesures jusqu'à la levée. Parce que c'était une ordonnance qui avait été prise par le gouvernement et nous avons respecté toutes ces mesures-là.
Merci. Alors, à vous les confrères, durant la Covid, est-ce que vos organes ont eu à toucher des...
Bon, je ne sais pas si c'est si mon collègue...
Oui, d'abord, je viens à vous. Oui, Elam, le rapport dit que certains fonds ont été utilisés pour sensibilisation, campagne. C'est vous, les médias, qui avez fait le travail à l'époque.
Oui, mais tu dis vous comme si tu n'étais pas parti. Je ne sais pas si aujourd'hui tu fais partie de l'OTR ou bien, parce que nous tous, nous sommes dedans. On est trois sur le plateau, on est tous journalistes. C'est à ces micros ici que les membres de la coordination venaient sensibiliser sur la Covid. Chaque semaine, chaque jour d'ailleurs. Et donc, si on doit poser la question, je pense qu'on doit se retrouver dans la peau de l'animateur pour te retourner la question. Est-ce que tu as senti ou touché ces fonds Covid? Point d'interrogation.
Moi, je leur ai passé la parole. Ils ne payaient pas chez moi.
Ok, donc ils ne payaient pas chez nous aussi.
Merci. Bon, arrêtons-nous ici. C'est le temps qui nous l'impose. Alors, très rapidement, un rapide tour pour vos cartons. Une dernière précision. Et l'homme, tu as la parole, tu la gardes?
Non, je n'ai pas de carton. Je souhaite une bonne journée à toutes et à tous.
Merci. Teko Mangloire?
Oui, ce qu'il faut dire, c'est que, comme l'avons dit, le nouveau président de la Pulsi après serment ce matin, moi, j'aimerais tout simplement l'exhorter à travailler afin de redonner à cette institution-là tout son allant, toute l'envergure que cette institution de la République devrait avoir, ce qu'on n'avait pas vu auparavant. Qu'un président d'une institution comme la Pulsi s'excuse parce que on a juste parlé des profils. Ici, on a même parlé des institutions. Mais à son temps, c'était juste des profils. Et il venait s'excuser, remettre tout le tort sur la presse. Je me dis que ce n'est pas bien. Aujourd'hui, le nouveau président doit travailler pour ne pas être ce président des ateliers comme on l'avait connu par le passé.
Tu donnes raison, le texte qui disait qu'une institution vaut autant par la loi que par la personnalité qui la représente. Monsieur Pelleï, Sosa Dema, directeur du contrôle fiscal, c'est vous qui êtes en charge du guichet unique du dépôt des états financiers. Nous sommes au terme de cette émission. Une conclusion en quelques secondes.
Je voudrais d'abord vous remercier pour l'opportunité et remercier l'ensemble des contribuables qui ont pu suivre les formations et les inviter à pouvoir poursuivre la procédure avec l'inscription sur la plateforme du guichet unique et à procéder au dépôt de leurs états financiers sur cette plateforme. Et inviter les petits contribuables à télécharger les modèles d'état financier sur le site de l'OTR, puisque ce sont ces modèles qu'ils doivent utiliser pour élaborer leurs états financiers à déposer en version physique. Merci beaucoup.
Merci, monsieur Colani. Un auditeur demande que si vous êtes vraiment vrai Mouba, il veut sentir ça dans votre dernière conclusion.
Oui, mais si ça, je suis vrai Mouba, je comprends bien ma langue. S'il veut, je peux.
Une chose est de comprendre, une autre de parler.
Je parle bien ma langue, il n'y a pas de souci pour ça. Et je lui dis, le ton après, le manque. Ok, et en termes de conclusion, je voudrais quand même vous remercier pour l'excellent travail que vous faites. Et à dire que le Togo, le gouvernement a une vision et nous ne comptons principalement que sur les ressources intérieures. Et depuis l'avènement de l'OTR, la mobilisation des recettes s'est accrue et aujourd'hui nous sommes fiers quand même d'avoir de grands projets se réaliser avec les ressources de notre pays. Et c'est à l'actif du gouvernement et je voudrais sincèrement vous remercier à tout le monde. Et puis, je garde une pensée pour mes parents de la savane qui font face au terrorisme.
Merci à vous, ma gloire et l'homme, à vous, M. Pelé, M. Colani. Mais je vous prie également de remercier les personnes qui ont rendu cette émission possible. Vous les connaissez, mais comme c'est des gens qui préfèrent rester dans la discrétion, on les remercie comme ça. Avec l'espoir que à chaque fois que le club de la presse vous sollicitera, vous saurez répondre, n'est-ce pas? Eh bien, dites ça à qui de droit.
Merci.
Et rendez-vous la prochaine fois.
Merci à tous ceux qui sont restés derrière la belle vitrine. Merci.